VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Manila Kidza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 18h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du lundi 9 octobre 2017. D'abord les principaux titres. En Centrafrique, la force onusienne a repris contrôle de la ville de Bokaranga. Les Libériens se rendent aux urnes demain pour élire un nouveau président et les députés. L'opposition kényane de nouveau dans la rue pour exiger la réforme de la commission électorale. Et Donald Trump change de nouveau de posture dans sa politique d'immigration. Retrouvez Yacouba Ouedraogo pour votre page des sports et Jacques Aristide pour l'actualité économique juste après le journal. En RCA, la MINUSCA a libéré la ville de Bokaranga dans le nord-ouest. Les casquets bleus ont repris contrôle aux hommes armés des 3R à la suite d'un raid lancé depuis samedi dernier. L'opération se poursuit, mais aucun bilan n'est encore disponible. Les détails de Freeman Sipila.
L'offensive de la MINUSCA est intervenue 3 jours après l'expiration d'un ultimatum de 72 heures lancé au général Abbas Siddiqui et son groupe 3R pour quitter la ville assiégée durant 3 semaines. La force onusienne a engagé d'importants moyens, y compris des hélicoptères de combat. Selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission de l'ONU, Bokaranga est entièrement sous contrôle des casques bleus et l'opération devra se poursuivre jusqu'à Bong, une autre localité contrôlée par les hommes du général Bahar de l'ex-Séléka.
Les premiers objectifs ont été atteints, c'est-à-dire le départ des éléments armés. Il faut s'assurer que ceux qui sont partis ne reviennent pas. Prendre des dispositions, contrôler les endroits, ce qui est déjà le cas. Et se poursuit par rapport également à Bong qui faisait partie, tout comme Boko Angora, des objectifs de cette mission.
Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. Entre-temps, des scènes de pillage à grande échelle ont été rapportées. Des maisons de particuliers, y compris des ONG locales, ont été systématiquement pillées par les assaillants avant d'être délogées. Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
RDC, un casque bleu a été tué dans l'attaque d'une base des Nations Unies dans l'Est et dans le territoire de Beni. La mission de l'ONU accuse le groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF, 12 autres casquets bleus ont été blessés. Le juge français Clément Herbeau, qui enquête sur l'attentat de 1994 contre le président rwandais Habyarimana, a ordonné la confrontation d'un nouveau témoin. Il affirme avoir eu la garde au quartier général de l'ex-rébellion du FPR de 2 missiles anti-aériens qui ont abattu l'avion sur ordre de son chef, Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Une commission rwandaise avait publié une liste de 22 officiers supérieurs français qu'elle accuse d'implication dans le génocide qui a fait 800 000 morts, selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Au Kenya, des milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre après invalidation du scrutin du 8 août dernier. Jacques Aristide.
Le rassemblement le plus important a réuni, d'après l'AFP, quelques 3000 personnes à Kisumu, un des bastions du leader de l'opposition dans l'ouest du Kenya. Il s'est dans un premier temps déroulé dans le calme, puis la police est intervenue utilisant du gaz lacrymogène. À Nairobi, environ 2000 personnes se sont mobilisées dans un parc où plusieurs leaders de la coalition NASA se sont relayés pour réclamer de nouveau un remaniement en profondeur de la commission électorale. Toutefois, pas de grande manifestation à Mombasa où se trouvait le président Uhuru Kenyatta en pleine campagne. L'opposition estime inutile de battre à campagne pour une élection qu'elle menace de boycotter si ses revendications ne sont pas satisfaites. Par ailleurs, dans un rapport publié ce lundi, la Commission nationale kényane des droits de l'homme indique que la police kényane a tué 35 des 37 personnes mortes dans les violences qui ont suivi la présidentielle du 8 août, dénonçant un usage excessif de la force. La commission ajoute n'être pas en mesure de déterminer si cet usage était prémédité et ciblé, mais que son analyse montre clairement que la majorité des victimes appartiennent à la même ethnie et viennent de bidonvilles.
Le compte à rebours a commencé au Libéria avec la fin de la campagne électorale. Les électeurs doivent choisir demain un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf qui ne peut plus se représenter après 2 mandats de 6 ans. Nathalie Barge.
Pendant les derniers jours de campagne, les plus grandes foules ont été mobilisées par le sénateur et ancien footballeur George Weah et sa colistière Jewel Owen Taylor, ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Sur les 20 candidats en lice, d'autres se détachent, dont l'ex-ministre Charles Brumskine et le vice-président sortant Joseph Boakai et l'homme d'affaires à la retraite Alexander Cummings. Il faut noter la présence de l'ex-chef de milice Prince Johnson, aujourd'hui sénateur, qui a assassiné le président Samuel Doe en 1990. Le mania des télécoms, Benoni Urey, est aussi dans la course, tout comme l'unique femme à se présenter, Magdela Cooper, ancien mannequin. 73 membres de la Chambre des représentants seront également élus mardi. Ce scrutin sera le premier à se tenir sans le soutien des casques bleus.
Au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque armée contre un marché de Port-Harcourt, ville pétrolière du sud-est du Nigeria. Au Nigeria toujours, les premiers grands procès à huis clos de plus de 2000 membres présumés de Boko Haram ont démarré aujourd'hui dans des centres militaires. Les suspects ont tous été arrêtés et mis en détention depuis le début de l'insurrection islamiste en 2009. Cette crise a fait 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés. La compagnie pétrolière d'État du Nigeria se défend des accusations de malversation révélées la semaine dernière par un membre du gouvernement. Et 3 sénateurs haïtiens en visite au Bénin se sont recueillis devant la statue de Toussaint Louverture, le héros de leur indépendance. Elle est érigée à Alada, ville du sud où se trouvent ses origines. Au Madagascar, 5 détenus présentés comme dangereux ont profité d'une panne d'électricité pour s'évader dans la nuit de samedi à dimanche de la prison de haute sécurité de Tchifara dans le centre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Durcissement du ton du président Donald Trump sur le dossier de l'immigration dans un document adressé au Congrès. L'exécutif américain pose des conditions pour une réforme de l'immigration qui éloigne les perspectives d'un compromis avec les démocrates. Arzuma Compaoré.
Une réforme de l'immigration doit créer plus d'emplois, des salaires plus élevés et plus de sécurité pour les Américains, a décrit Donald Trump dans une lettre au Congrès. Le financement du mur à la frontière avec le Mexique, l'accélération des procédures de renvoi des mineurs arrivant à la frontière, l'augmentation des effectifs des agents d'immigration ou encore la suppression de la loterie Green Card sont autant de mesures prévues par sa réforme. Le président Trump a déjà supprimé le programme DACA qui a permis de donner des papiers temporaires à des clandestins arrivés aux États-Unis avant l'âge de 16 ans. Par ailleurs, le patron de la Maison-Blanche propose une réforme du système des permis de résident permanent. Les fameuses cartes vertes devront désormais être basées sur un système de points. Tous ces principes et priorités énoncées par l'administration Trump seront le point de départ d'âpres négociations au Congrès où très certainement la minorité démocrate fera de la résistance.
Un élu important de la majorité républicaine, Bob Corker, a dit publiquement que le président Donald Trump est un être impulsif et instable qui met en danger les États-Unis. Et la plus âgée des sénatrices américaines brigue un cinquième mandat de 6 ans en novembre 2018. La démocrate de Californie, Dianne Feinstein, a 84 ans et a soutenu de nombreux programmes de surveillance et de renseignement décriés par les progressistes, notamment un rapport retentissant accusant la CIA de torture dans la guerre contre le terrorisme. Le tiers du Sénat et la totalité des sièges de la Chambre des représentants seront renouvelés. Le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Yukiya Amano, a affirmé que l'Iran respectait pleinement ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. La Catalogne vivait aujourd'hui des heures d'extrême incertitude. Son président séparatiste n'écarte toujours pas une déclaration d'indépendance dès demain si Madrid refuse une médiation. La Bolivie rend hommage à Ernesto Che Guevara, tué il y a 50 ans dans le maquis bolivien. Le président de gauche Evo Morales, qui revendique l'héritage de guerrillero argentin, a pris part aux cérémonies en sa mémoire. Au moins 14 Rohingyas sont morts et des dizaines portés disparus dans un naufrage de leur bateau fuyant la Birmanie. Cette crise a poussé plus d'un million de réfugiés au Bangladesh en 6 semaines. Le prix Nobel d'économie a été attribué à l'Américain Richard Thaler. Il est considéré comme le père de la méthode dite au coup de pouce et est censé corriger les comportements irrationnels des consommateurs, contribuables ou investisseurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité en Afrique avec Jacques Aristide.
Le Congo-Brazzaville veut renégocier avec ses créanciers les termes de sa dette, estimée à 110% par le Fonds monétaire international. Un tel programme a déjà été conclu avec d'autres pays d'Afrique centrale, frappés par la chute des prix du pétrole. Le FMI a ainsi accordé en juin un prêt de 642 millions de dollars au Gabon. La dette du Congo est évaluée à 5329 milliards de francs CFA, sans les dettes litigieuses ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 2014. Le FMI avait confirmé début août que le Congo avait caché une partie de sa dette. L'entreprise Bouygues Énergie et Services annonce la fin de ses activités au Gabon après environ 70 ans de présence. La décision a suscité l'incompréhension et la colère des 223 employés. La compagnie affirme qu'ils recevront jusqu'à 18 mois de salaire en fonction de l'ancienneté. Le syndicat a dénoncé le caractère inhumain de cette décision alors que les Gabonais ne bénéficient pas d'allocation chômage. Le groupe Bouygues conserve deux autres filiales dans le pays, notamment dans le bâtiment et travaux publics. Le Soudan espère que la levée de certaines sanctions américaines à partir du 12 octobre permettra de mettre fin à son isolement des marchés internationaux. Le pays est confronté depuis des années à des déficits budgétaires à répétition et à une forte inflation. L'embargo économique a été imposé par Washington depuis 1997 pour le soutien présumé de Khartoum à des groupes islamistes.
Et sans transition, nous passons au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Nous commençons évidemment avec le football. On connaît les premiers pays africains qualifiés pour le mondial de 2018. C'est bel et bien l'Égypte et le Nigeria, n'est-ce pas?
Tout à fait. Dans un stade de bord El Arab à guichet fermé, 86 000 spectateurs. Les pharaons ont validé leur bien dominant le Congo 2-1, doublé de Mohamed Salah au terme d'un scénario fou. Le but libérateur est intervenu à la 95e minute. Avec 4 points d'avance sur son dauphin, l'Ouganda, le vice-champion d'Afrique en titre ne peut plus être rejoint. Les pharaons joueront leur troisième phase finale de Coupe du Monde après 1934 et 1990. Bien avant, les Sapeurs Eagles du Nigeria ont obtenu leur ticket samedi devant les Chipolopolo de la Zambie grâce à un but d'Alex Iobi. Score final 1-0, ce sera la sixième Coupe du Monde pour le Nigeria.
Et Yakuba, nous avons deux pays en voie d'être qualifiés, la Tunisie et le Maroc. Ils sont presque.
Oui, il ne manque plus qu'un seul point aux Aigles de Carthage pour se rendre en Russie. La Tunisie a dominé la Guinée 4-1 avec un triplé de Youssef M'Sakni. À un match de la fin, les Tunisiens conservent donc 3 points d'avance sur la RDC qui a battu la Libye 2-1. Après le boulevard laissé par la Côte d'Ivoire tenu en échec au Mali 0-0 vendredi, les Lions de l'Atlas, eux, ont surclassé le Gabon 3-0 samedi pour s'emparer des commandes du groupe C avec un point d'avance sur les éléphants. Voilà qui entrevoit une finale à Abidjan face au Maroc pour la dernière journée. Le sélectionneur des éléphants, Marc Villemotte, compte la jouer à fond.
Le positif, c'est qu'on a pris un point ici. Je crois que beaucoup d'équipes ne prendront pas de points ici. Donc ça veut dire que nous, on l'a pris au caractère, au courage, parce qu'on voulait absolument avoir une finale à Abidjan avec un stade qui sera, j'espère, hyper comble et que tout le monde viendra nous soutenir.
Marc Villemotte au micro de Siaka Traoré pour VOA Afrique.
Nous avons également le Sénégal qui a réalisé une bonne affaire à Praia.
Les Lions de la Teranga ont arraché la victoire au Cap-Vert 2-0 et prennent la tête du groupe D en attendant la double confrontation contre l'Afrique du Sud, sixième journée et match à rejouer. Diafra Sakho et Cheikh Ndoye ont permis au Sénégal de prendre 2 points d'avance sur le Burkina Faso, surclassé 3-1 par l'Afrique du Sud. Grosse désillusion pour les étalons qui refusent tout de même d'abdiquer, comme le fait savoir le capitaine Charles Kabouri.
C'est de la faute de tout le monde, la défaite, et on est tous responsables. Le prochain match, on va se rattraper. On va espérer jusqu'au bout, garder espoir, souhaiter à tout le monde de rentrer dans les clubs et se préparer bien pour le dernier match au Burkina.
Charles Kabouri au micro de Zoumana Wonogo pour VOA Afrique.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila Kidza, pour aborder la deuxième partie d'émission des dossiers du jour. Les Libériens choisissent demain mardi un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Parmi les 20 candidats dans la course, le vice-président sortant Joseph Boakai et le légendaire footballeur Jojo Weah. Le reportage de Bram Posthumus, présenté par Lionel Gahima.
L'hymne de campagne du parti au pouvoir est on ne peut plus clair. Il ne peut y avoir qu'un vainqueur mardi et c'est nous, chantent ces militants du Parti de l'Unité. Rosa Labat, une militante, déborde d'enthousiasme.
Nous avons besoin de quelqu'un à même de prendre sa relève et continuer.
Une allusion à la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf. Pour les militants du Parti de l'Unité, nul ne mieux placé pour lui succéder que son vice-président Joseph Boakai. Réservé, il n'a jamais été accusé de corruption et jouit d'une bonne réputation. Sa candidature ne fait pas pour autant l'unanimité dans le pays. Le pasteur Ibrahim Ko plaide pour l'alternance. Je suis pour la continuité, mais dans un sens différent. Ce parti nous a servi pendant 12 ans, donc l'heure est venue de changer. Dit changement au Libéria et le regard se tourne vers l'immense quartier général de campagne de George Weah. Légende du football et sénateur de Montserrado, il a brigué la présidence à deux reprises et pense que la troisième fois sera la bonne. Sa militante, Cécilia Moi, est très convaincue.
Je vote pour lui pour l'avenir. Il fera quelque chose de bon pour le Libéria.
Parmi les grands besoins du pays, la remise en état d'un système de santé délabré et dont les lacunes ont été visibles durant l'épidémie d'Ebola qui a pris fin il y a un peu plus d'un an. Les secteurs de l'éducation et des infrastructures routières nécessitent de grands investissements. La commission électorale en a fait la meilleure expérience dans l'acheminement du matériel électoral dans les coins reculés. Les résultats provisoires attendus cette semaine permettront de déterminer s'il y aura un second tour.
En Guinée, plusieurs marques de vêtements ont fait leur apparition sur le marché grâce à la maîtrise des logiciels informatiques. Mais pour la plupart, l'impression se fait avec de petits moyens. Ce sont des t-shirts et des casquettes qui portent différents noms et sont proposés, mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous, comme vous le raconte Zakaria Camara.
Bienvenue déjà sur Touquet Nikoté, la toute nouvelle marque de vêtements.
Cabinet Diawara est l'un des jeunes Guinéens à avoir lancé une marque de vêtements avec des moyens limités.
Certes, on n'a pas beaucoup d'équipement, mais on a une machine qu'on appelle la machine de presse. Ici, on n'a pas tout ce qu'il faut pour travailler sur la marque, telle que la broderie et tout ça.
Tout qui est dit souvent en ligne, la marque que porte le Guinéen est le fruit d'une histoire d'amour, celui d'un fils pour sa maman.
Et communément, on l'appelle Maman Kadi, sinon c'est Kadiatou Diani, son nom, et moi c'est Kabine Diawara, donc voilà, ça fait Kadiatou Diani, ça fait Kadé, et Kabine Diawara aussi, ça fait Kadé. L'appellation Tout qui est dit est nettement mieux que deux Kadé.
Daouda Sissi est responsable des productions de RJV, l'une des premières marques Made in Guinée. Ici, comme avec de nombreux noms des marques de vêtements, l'envie de vendre la Guinée a pesé.
Étant donné qu'on est Guinéen, donc on est tous patriotes, ça veut dire qu'il fallait qu'on crée une marque. Une marque parce qu'on a vu nos voisins de l'extérieur, c'est-à-dire nos voisins qui ont créé une marque similaire. RJV, ça veut dire rouge, jaune, vert. C'est le drapeau guinéen.
En Guinée, créer sa marque de vêtements est facile, mais la vendre n'est pas de tout repos.
C'est toujours pas facile, hein, je peux vous dire. Surtout en Afrique, créer ce genre de projet-là, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens. Et jusqu'à présent, on en demande. RJV prend de l'ampleur au moment où il y a la CAN, c'est-à-dire les éliminatoires de la CAN ou bien les compétitions de la CAN.
Portée de Made in Guinée, l'idée passe plutôt bien chez les jeunes.
C'est l'image de la Guinée qui passe. Donc moi, je pense que c'est une très belle idée que quand on porte des vêtements comme ça. Là, quand...
Je crois que c'est une belle initiative qui doit être encouragée. Si les autres pays le font, pourquoi pas la Guinée? Et puis ça donne de l'emploi à la jeunesse.
La plupart des marques sont imprimées sur des t-shirts et des casquettes, mais elles ne sont pas connues du grand public. Il faudra attendre encore et encore avant de voir le grand succès de Made in Guinée. Conakry, Zakaria Camara, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Popularité grandissante en RDC des produits aphrodisiaques à Goma, la capitale du Nord Kivu. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les prix sont devenus très abordables. Toutefois, des spécialistes mettent en garde contre leur consommation abusive. La correspondance à Goma de Charlie Kasereka.
C'est devenu les produits faciles à trouver dans presque tous les kiosques au quartier, les grands marchés, les carrefours et les longs des avenues. À la tombée de la soirée, ce sont des vendeurs ambulants qui circulent dans presque tous les coins où l'on va la bière à la recherche des potentiels clients et tout le monde a son choix, soit de les consommer naturels ou déjà traités.
Moi, je suis toujours traditionnaliste, je suis africain, donc nous ne consommons que des stimulants qui sont naturels. C'est-à-dire que c'est toujours soit des noix de cola, c'est soit du gingembre mélangé avec du miel. Donc nous savons très bien que quand une femme est infidèle, la première cause, c'est d'abord le fait qu'elle n'arrive pas à être satisfaite par son mari. Et que donc, si on a un remède, et que ce stimulant, c'est un aphrodisiaque, et que nous, il faut le consommer pour satisfaire ta femme, pourquoi ne pas le faire? Nous le faisons tous.
J'ai au moins une certaine mesure d'équilibre lorsque je prends ces boissons, parce que je sais que si je prends beaucoup, j'aurai en moi des sentiments qui peuvent me pousser à aller prendre même une fille par force.
Certains vendeurs au marché central de Goma, comme le long des routes, estiment que les produits sont de plus en plus recherchés pour leur efficacité.
Ces derniers temps, il y a de fortes demandes. Par exemple, ceci. C'est pour rétablir dans 14 jours la puissance sexuelle perdue. Avec ce commerce, je nourris très bien ma famille.
Des produits aux effets miracles, de consommateurs connaissent bien les conséquences, mais difficile d'abandonner. Question pour eux de rester toujours efficaces.
Au-delà d'aller à la pharmacie, nous avons des trucs un petit peu naturels. Et moi, je me dis, si il faut qu'on y démarre, ça pourra un jour décevoir.
Une habitude qui suscite des questionnements. Le plus âgé pense que les gènes devraient rester naturels au lieu de se précipiter à une impuissance sexuelle dans les prochaines années, surtout pour leur vie des couples.
Personnellement, je n'ai jamais, mais je vois des jeunes qui les utilisent. Ils se vantent et ils disent que grâce à ces produits, ils parviennent à satisfaire leurs besoins sexuels. Mais pour moi, c'est un produit qui a déconseillé.
Les sexologues à la clinique que Simac de Goma, docteur Ndabo, pense que les jeunes jouent aujourd'hui avec le feu en utilisant ces aphrodisiaques pour maintenir très longtemps leur libido et les conséquences sont énormes.
Et donc il est aussi important de savoir que ces médicaments, on ne connaît pas ni leur posologie, qui s'entraîne le plus souvent la mort subite chez la personne pendant les rapports sexuels, l'hypertension par rapport aux maladies rénales, donc une génération serait totalement sacrifié. C'est vraiment quelque chose qu'on doit décourager.
Ces plantes et racines, comme aussi le jus, réputé pour leurs vertus aphrodisiaques, se font leur temps et restent très bien consommés par des adultes, de jeunes, comme aussi les adolescents. Charlie Kasereka, depuis Goma, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Aller s'installer aux États-Unis grâce à une carte de résident permanent obtenue via la loterie américaine, c'est un rêve pour de nombreux jeunes Camerounais. L'option attire, mais divise aussi l'opinion. Malgré tout, l'engouement reste grand après l'ouverture des inscriptions gratuites en ligne pour la Green Card 2019. Surtout en milieu universitaire où l'opération est une aubaine pour des jeunes très entreprenants. Le reportage est signé Emmanuel Juntap.
L'ouverture de la loterie pour la carte verte 2019 aux États-Unis a une nouvelle fois changé le vécu quotidien de César. un étudiant en master 2 biochimie à l'université de Yaoundé 1. En plein air, le jeune homme se fait plein les poches avec son ordinateur.
Je suis à ma troisième expérience. Je suis en train de chercher de l'argent, évidemment. J'ai aidé les gens à se faire inscrire à la loterie américaine. J'associe à cela les demi-cadres photo.
Parle-t-il anglais?
Pratiquement, non.
Sont-ils informés des conditionnalités?
Naturellement. Le souci principal, c'est d'arriver aux États-Unis.
Ces services coûtent 1000 francs par personne inscrite. Dans cette zone universitaire, la loterie américaine inaugure toujours une période de vache grasse pour les tenanciers des cybercafés conventionnels. Franck est l'un d'eux.
Comme on a des fiches à remplir, le 3, mais avant 19h, on a eu un nombre exorbitant de personnes qui voulaient s'enregistrer avant l'inscription en elle-même.
Le rêve américain au bout de la chance attire surtout les jeunes Camerounais, sans oublier de nombreux sans-emploi, parfois aux abois.
Les conditions du Cameroun, proprement dit, ne sont pas favorables. Tu as un doctorat peut-être, mais tu n'as pas de travail.
C'est votre cas, madame?
Oui, bien sûr.
Je suis étudiant en marketing. Mon intérêt, c'est aller aux États-Unis, le pays des rêves.
C'est la troisième fois que vous participez à
la troisième fois.
Certes, la Green Card a déjà fait quelques heureux dans des familles camerounaises, mais l'initiative est loin d'être perçue par tous comme une panacée.
Moi, je ne vais pas jouer à la loterie américaine. Pourquoi faire? Pour être immigré, c'est un nom péjoratif. Si tu es paresseux ici, tu vas être paresseux là-bas.
Et la réalité qu'on fuit ici peut être la même qu'on va retrouver devant. Tant qu'on n'a pas épuisé toutes les ressources, on ne devrait pas baisser les bras.
Sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, le vice-consul Eric Elliott invite les candidats à la Green Card à la vigilance face aux arnaqueurs. Une mise en garde qui n'a tenu pas les vives appréhensions de Amélie James-Kobela, expert consultante en migration, vis-à-vis du phénomène d'immigration, qu'il soit régulier ou irrégulier.
C'est entre 3 millions et 7 millions pour partir. Il faut les sortir. Les gens vendent les terrains, ils vendent les sociétés, ils vendent les salons. Il faut envoyer un message à l'État. Les politiques doivent être réelles envers la jeunesse. Je n'ai jamais vu une campagne avec des affiches où on dit aux jeunes, allez à tel endroit, il y a de l'argent pour faire des projets. Le jeune au Cameroun doit maintenant savoir qu'on se préoccupe de sa cause. Mais que les jeunes bougent aussi, ils dorment trop. Ils vont sur Internet, ils veulent seulement partir.
Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Un morceau à suivre dans RM Show, c'est la fin de cette édition. Lionel Lunanira Gahima a assuré la mise en onde. Dinas à la console et Hightech Voitech vient de prendre la relève. Présentation, Eric Manirakid. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Restez en contact sur Facebook et rendez-vous sur votre site voafrique.com 24/24. À bientôt.